Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce cours de droit des artistes. J'espère que je vous ai manqué. Ici, on va essayer d'aborder ensemble ce que nous aurions dû aborder ce mardi, à savoir les exercices concernant la deuxième partie du cours, à savoir les aspects sociaux et salariaux des activités artistiques. Je vais reprendre en détail avec vous les énoncés que je vous ai transmis et que vous trouverez sur l'intranet de l'école. Et il faut savoir que pour l'examen, l'évaluation qui aura lieu, les casus porteront donc sur la moitié des points. Et donc c'est important pour vous de bien comprendre les applications, les différents éléments théoriques que nous avons vus ensemble dans les cours précédents. Dans ce premier casus, nous allons examiner la situation de Cunégonde, qui a 26 ans. C'est une amatrice de peinture à la gouache. Je rappelle effectivement que ce casus a déjà été abordé au cours précédent, mais je me permets de faire un rappel pour être bien sûr que vous ayez tous et toutes l'information utile pour pouvoir faire l'examen au mieux, parce que, évidemment, les énoncés que vous retrouverez à l'examen seront fortement inspirés de ceux que nous aurons abordés au cours. Et donc, je reviens un peu sur la situation de Cunégonde, donc, qui a 26 ans, c'est une amatrice de peinture à la gouache. Elle a suivi un cursus dans une école d'art et en garde un souvenir mémorable. Il y a 3 ans, elle a été engagée comme chargée de projet dans un centre culturel en 4e-5e temps, en contrat à durée déterminée, renouvelable annuellement, dans lequel elle coordonne les expositions. Elle continue toutefois de cultiver secrètement sa passion pour la gouache. Première question. Cunégonde vend parfois à la foire annuelle de la gouache de Bastogne, où elle tient un stand, une toile à un particulier. Est-elle assujettie à la sécurité du fait de la vente d'une toile? Donc, lors du cours précédent, on a examiné cette question et je vous ai expliqué que la réponse dépendait de la justification que vous y apportez. Puisque ici, a priori, les éléments qui sont donnés dans l'énoncé dévoilent une activité très restreinte de vente de toiles, puisqu'on parle de la foire annuelle de la gouache de Bastogne. Il s'agit d'une foire annuelle donc, qui se tient une fois par an, et on dit qu'elle ne fait que vendre une seule toile. Donc, a priori, il ne s'agit pas d'une activité professionnelle, puisque cette activité est purement occasionnel. Or, comme vous le savez, on l'a vu au cours, une activité qui est uniquement occasionnelle, et ici, en plus, c'est indiqué dans l'énoncé, il s'agirait plutôt d'un hobby, eh bien, à ce moment-là, on ne pourrait pas parler d'activité qui assujettit Cunégonde à un régime de sécurité sociale, puisque, en l'absence d'activité professionnelle, il n'y a pas d'assujettissement. Donc, la question pourrait être amenée à répondre non, et donc, dans cette hypothèse, il faut juste indiquer non, car il s'agit d'une activité occasionnelle, entre parenthèses hobby, et donc pas d'une activité professionnelle. Voilà, c'est pour avoir un point sur un. Maintenant, il est possible aussi de répondre à l'inverse. On pourrait tout à fait soutenir que cette activité qui a lieu depuis plusieurs années est régulière, est récurrente, et que si elle y a dans cette vente qui a lieu sur son stand, si elle a l'intention de vendre à plusieurs personnes et que elle a mis tout en œuvre, elle a posé des gestes de vente, par exemple créant un site internet ou en démarchant des particuliers ou en indiquant des prix sur ses toiles qui révéleraient une activité récurrente. À ce moment-là, on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une activité professionnelle qui a lieu donc dès lors de l'assujettir au régime des travailleurs indépendants, puisqu'ici elle n'est pas soumise à un employeur, elle travaille de façon indépendante. Et donc, on pourrait répondre à cette question, oui, dès lors qu'il s'agit d'une activité récurrente, professionnelle, qui l'assujettit au régime des travailleurs indépendants. Pour l'examen, il y a assez peu de place pour répondre, hein, quelques lignes, et donc il ne faut pas seulement m'indiquer oui ou non, il faut bien justifier sa réponse, la justifier de façon cohérente, et donc moi, quand je corrige votre copie, j'examine la qualité de la justification. Donc, si vous mettez oui et que vous justifiez votre réponse correctement comme je viens de le faire, il n'y a aucune difficulté. Si vous me répondez non et que vous justifiez correctement la réponse, à nouveau, il n'y a aucun problème. les deux raisonnements se valent. Concernant la deuxième question, doit-elle appliquer la TVA sur les toiles qu'elle vend dans le cadre de ses expositions? Dans l'affirmative, à quel taux? À nouveau, tout dépend de la justification que vous apportez à la réponse, puisque, comme vous le savez, s'il s'agit d'une activité professionnelle, une activité économique, pardon, une activité économique d'échange de biens ou de services rémunérés, à ce moment-là, effectivement, comme vous le savez, dans les conditions d'assujettissement de la TVA, il faut une activité qui n'est pas un hobby, une activité économique donc, qui implique la livraison de biens ou de services et qui a lieu de façon récurrente, qui n'est pas seulement occasionnelle. Et donc à ce moment-là, on peut parler effectivement de TVA et dans cette hypothèse, on applique la TVA puisque on pourrait soutenir que ici, comme l'activité a lieu de façon régulière, eh bien, on applique la TVA et la TVA appliquée au, à la vente de toiles, d'œuvres d'art, d'œuvres plastiques, comme vous le savez, c'est un taux réduit puisque ce n'est pas de 21%, mais de 6%. Et vous pouvez même préciser que la vente de toiles, dans certaines hypothèses, si la personne ne dépasse pas un certain seuil, à savoir 25 000 euros de chiffre d'affaires, la personne n'est pas soumise si elle est, si elle bénéficie du régime de la franchise. Ça, c'est pour la question. Si vous répondez à, non à la question, à ce moment-là, vous devez justifier en indiquant qu'il s'agit d'une activité comme un hobby et pas d'une activité professionnelle. À ce moment-là, il n'y a pas d'application de la TVA. Donc, de nouveau, ces deux réponses possibles, tout dépend de la façon dont vous la justifiez. Donc vous pouvez très bien dire oui, il y a application de la TVA puisqu'il s'agit d'une activité économique et le taux est alors de 6% ou peut-être éventuellement de 0% si il s'agit du régime de la franchise. Et vous pouvez aussi répondre non, elle n'est pas assujettie puisqu'il ne s'agit pas d'une activité économique récurrente et uniquement d'une activité occasionnelle à titre de hobby. Concernant la troisième question, peut-elle demander au client de la payer en utilisant le régime des petites indemnités? À quelles conditions peut-elle utiliser ce système? Donc, normalement, vous le savez, quand on utilise le régime des petites indemnités, c'est qu'on bénéficie de la carte artiste qui est délivrée par la commission artiste. Il est possible d'utiliser cette carte dans certaines hypothèses, hein, donc notamment pour la vente d'œuvres d'art. Il faut juste indiquer sur l'application Artist Artwork où on est relié à sa carte artiste les jours où on travaille éventuellement pour la réalisation d'une œuvre d'art et le jour de la vente, de l'exposition par exemple ici, vous pouvez indiquer un jour de travail et travail, pas vraiment puisqu'il s'agit d'une activité donc qui est défrayée, mais un jour en tout cas où vous percevez de l'argent à titre d'indemnité liée au régime des petites indemnités. À ce moment-là, donc, vous indiquez sur votre application Artist at Work le montant de la vente. Je vous rappelle que ce montant ne doit pas dépasser un certain seuil et que le montant ne doit pas dépasser annuellement un certain montant. Ça, vous devez juste indiquer ces conditions et pas spécialement détailler les montants, comme je voulais le préciser au cours. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où vous répondez oui à la question. Ici, on peut difficilement répondre non, puisque c'est tout à fait son droit, à moins de considérer qu'elle n'est pas la carte artiste. Mais bon, ici, comme je vous le demande, il faut préciser les conditions, à savoir l'obtention d'une carte artiste et ne pas dépasser certains plafonds au niveau des montants liés à la vente des œuvres d'art. Donc ça, c'est pour ce premier casus. Je précise en passant que si vous avez des questions concernant la matière, je suis toujours disponible par mail. Vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, il n'y a pas de difficulté. J'y répondrai le plus vite possible. On est toujours dans le casus 1, mais on continue l'énoncé avec Cunégonde. Il faut s'imaginer qu'à ses 27 ans, son contrat à durée déterminée au centre culturel n'est pas reconduit en raison d'une diminution de subsides. Elle profite pour faire le point sur sa vie et décide de professionnaliser son activité de peintre. Ça tombe bien, on s'arrache ses œuvres à la gouache dans tous les salons d'Europe. Cunégonde perçoit 8 000 euros de droits d'auteur sur ses œuvres. Première question, peut-elle réclamer une indemnité de rupture au centre culturel en considérant qu'elle était engagée à contrat à durée indéterminée? Je vous rappelle, je vous renvoie à la partie du cours concernant le droit du travail. Nous avions examiné assez brièvement, mais c'est indiqué sur les slides, les différentes conditions dans lesquelles on pouvait reconduire éventuellement plusieurs contrats à durée déterminée. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une pratique qui est normalement très réglementée. On ne peut pas engager un même travailleur sous plusieurs contrats à durée déterminée. Il faut, lorsque ça dépasse 2 ans et 3 contrats, demander en principe une dérogation à l'inspection sociale. Et il est possible d'alléguer, par exemple, une dérogation, une situation particulière, une raison légitime. Par exemple, ici, c'était le cas pendant des années, la diminution de subsides, le fait de ne pas pouvoir renouveler un contrat qui est lié ici à une diminution de subsides n'est pas une raison légitime. On ne peut pas invoquer cette raison légitime pour justifier le non-renouvellement d'un contrat. Cette raison légitime était souvent invoquée pour les acteurs qui, d'année en année, se voyaient reconduire leur contrat dans des théâtres qui les engageaient à la saison. L'argument des théâtres était de dire, ben, comme je ne sais pas l'année prochaine le subside qui me sera alloué, je ne peux l'engager que pour 1 an, et d'année en année, je vois si j'ai assez d'argent en fonction des subsides qui me sont alloués pour pouvoir le réengager, et c'était la raison qui était invoquée pour pouvoir justifier l'utilisation de contrats à durée déterminée de façon successive. Ici, ça ne pourrait pas être utilisé, puisque nous l'avons vu, la jurisprudence considère que l'obtention du subside ne peut pas être une raison légitime pour utiliser plusieurs contrats à durée déterminée d'affilée. Donc ici, dans l'hypothèse où cette raison légitime ne peut pas être invoquée, automatiquement, le fait de utiliser des contrats à durée déterminée au-delà de 2 ans implique la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et à ce titre, Cunégonde pourrait réclamer une indemnité de rupture liée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée. C'est une question qui n'est pas simple, donc comme je vous l'ai expliqué dans les questionnaires pour les examens, j'essaie de trouver des casus qui sont en lien avec la pratique professionnelle. Cette situation est arrivée déjà plusieurs fois dans le passé, et donc c'est vrai que c'est une question qui n'est pas spécialement courante, et bien sûr pour l'examen vous aurez des questions de ce type, mais qui sont toujours en lien avec les parties théoriques que nous avons vues dans le cours. Donc je vous invite à bien relire les slides et à bien relire vos notes pour vous entraîner à répondre au casus afin de voir si vous avez une totale maîtrise de la matière. Chaque année, durant les vacances de Pâques, Cunégonde animait dans l'SBL d'une amie un atelier d'éveil à la création pour les enfants. Elle était engagée sous article 17. Peut-elle valoriser ses jours de travail pour être admissible au chômage? À nouveau, je vous renvoie à la partie du cours sur l'article 17. Nous avions très brièvement vu cet article, qui est un mode d'engagement assez courant dans le secteur non marchand et dans le secteur culturel. Beaucoup d'ASBL utilisent ce contrat qu'on appelle de façon usuelle article 17 pour engager des artistes, notamment pour les animations parascolaires dans les ASBL. Ça arrive très régulièrement, notamment pour les ateliers d'art plastique. Et donc, c'est pas inintéressant de voir que dans cette hypothèse, on ne peut pas valoriser les jours de travail pour les allocations de chômage. Comme vous le savez, ça fera l'objet de la dernière partie du cours, et je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises lors des cours ex cathedra. Pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, il faut avoir presté un certain nombre de jours de travail. Et lors de la prestation de ces jours de travail, il faut verser des cotisations sociales. Seuls les jours où l'on travaille et où l'on verse des cotisations sociales sont pris en compte pour le calcul des allocations de chômage et pour voir si vous avez suffisamment travaillé pour pouvoir en bénéficier. Ici, la particularité de cet article 17, c'est que l'employeur bénéficie d'une exonération et ne paye pas de cotisation sociale. Et donc, c'est intéressant pour l'employeur parce que ça en coûte en gros moins cher d'engager quelqu'un sous article 17 que sous contrat normal. Toutefois, ces jours ne sont pas valorisables pour le travailleur. Il ne peut pas dire, tiens, j'ai travaillé pour tel ASBL sous article 17 tel et tel jour, parce que pour ces jours-là, précisément, il n'y a pas eu de versement de cotisation sociale. Et donc, c'est pas inintéressant dans toute une série de situations pour un travailleur d'accepter ce genre de contrat, puisque ils sont assez courants et c'est une forme de rémunération tout à fait valable. Mais en revanche, pour une personne qui souhaite obtenir le statut d'artiste et qui travaille comme artiste dans le cadre de ce genre d'atelier, il a tout intérêt à refuser ce genre de contrat et à privilégier un contrat à la tâche ou un contrat à durée déterminée classique, puisque ces contrats-là, par contre, sont tout à fait valorisables puisqu'il y a un prélèvement pour les cotisations sociales réalisées par l'employeur. Alors, troisième sous-question, que doit-elle payer à l'impôt des personnes physiques? Là, je précise qu'il s'agit bien du montant concernant les droits d'auteur qu'elle a perçus, à savoir 8 000 euros. À l'impôt des personnes physiques, souvenez-vous, on a vu qu'il y avait différentes rubriques. Lorsque vous êtes amené à remplir votre déclaration fiscale, il y a quatre rubriques qui sont reprises. Les revenus professionnels, les revenus immobiliers, les revenus mobiliers et les revenus divers. On a vu ensemble que les droits d'auteur, les revenus liés aux droits d'auteur faisaient partie, étaient à cheval sur deux rubriques. D'une part, les revenus professionnels, lorsque les montants relatifs aux droits d'auteur ne sont pas, ne dépassent pas un certain plafond, et basculent dans les revenus professionnels lorsque les revenus liés aux droits d'auteur dépassent un certain plafond. Ici, le montant de 8 000 euros étant inférieur au dit plafond, on est face à des revenus considérés comme des revenus mobiliers. Dans ces cas-là, lorsqu'il s'agit de revenus mobiliers, les droits d'auteur sont moins taxés, puisque, comme vous le savez, lorsqu'ils sont repris en tant que revenus mobiliers, il y a une dérogation particulière visant les droits d'auteur qui fait qu'au lieu d'être taxés 30% au titre de revenus immobiliers, ils sont moins taxés, ils sont taxés à 15% et la moitié des droits d'auteur déclarés bénéficient d'une exonération puisqu'on considère que la moitié des revenus perçus sont des frais professionnels. Enfin, en tout cas, vous avez dû réaliser toute une série de frais professionnels pour pouvoir réaliser votre œuvre et donc ils sont exonérés. Et ce qui fait que le montant retenu en général est de 7,5%. Je renvoie à ce sujet aux explications que je vous ai données au cours ex cathedra. Donc ici, pour répondre à la question, que doit-elle payer à l'impôt des personnes physiques? Eh bien, elle doit verser des revenus, un impôt sur le revenu mobilier, entre parenthèses, droit d'auteur. Et elle devra payer 7,5% de 8 000 euros d'impôts. Vous n'êtes pas, même si je pense que ce montant est important, obligé de retenir absolument le montant. Ce que vous devez retenir, c'est le raisonnement. Bien que je vous encourage à quand même avoir en tête ces montants, et ce n'est pas tellement difficile en réalité, puisque 30%, il suffit de retenir ceci, 30% pour les revenus mobiliers, 15% pour les droits d'auteur, 7,5% pour la première tranche de droits d'auteur. Qui concerne, il s'est repris, les montants sont repris dans les slides, qui concerne uniquement la moitié du montant repris comme droit d'auteur, puisque l'autre moitié sont considérés comme des frais déductibles. Quatrième sous-question, si elle ne bénéficie d'aucun revenu, à quel régime de sécurité sociale serait-elle assujettie? Donc, ça, c'est dans l'hypothèse où Cunégonde ne perçoit que 8 000 euros de droits d'auteur. Dans cette hypothèse, si elle n'est pas assujettie à d'autres régime de sécurité sociale, par exemple, si elle ne travaille pas comme salariée, comme indépendante, ce qui est son cas a priori, puisqu'elle a été licenciée du centre culturel, donc elle ne dispose pas d'autres revenus. Si elle est uniquement Je veux dire, si elle bénéficie, pardon, uniquement de droits d'auteur, à ce moment-là, là je vous renvoie au cours également, dans cette hypothèse, elle ne sera assujettie qu'au régime des travailleurs indépendants. Ça, c'est un point que j'ai mis en exergue dans le cours, sur lequel j'ai lourdement insisté, puisque là, il s'agit d'une question que vous retrouverez potentiellement à l'examen, hein, puisque c'est un point vraiment important, un point très important à comprendre dans le cours, c'est que lorsque on ne perçoit pas d'autres revenus que des droits d'auteur, et qu'on n'est pas assujetti par ailleurs à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité salariée ou indépendante, automatiquement, on est assujetti au titre d'indépendant. Donc ici, Cunégonde qui perçoit 8 000 euros de droits d'auteur, qui ne perçoit pas d'autres revenus, devra être déclarée comme indépendante, et à ce titre, comme vous le savez, elle devra accomplir toute une série de démarches, et notamment payer des cotisations sociales. Et donc, la réponse à la question suivante est assez simple, puisque quelles sont les conséquences si elle ne déclare pas ses revenus aux administrations sociales et fiscales? Ben, dans la première hypothèse, si elle ne déclare pas son activité aux administrations sociales, c'est-à-dire si elle ne se déclare pas comme assujettie au régime des indépendants, il y aura plusieurs conséquences. La première, c'est que, comme elle ne paye pas de cotisations sociales sur les 8 000 euros, vu qu'elle ne s'est pas déclarée et qu'elle n'est pas assujettie, eh bien, elle devra tout simplement s'acquitter de cotisations sociales depuis le début de son activité, d'accord? De cotisations sociales trimestrielles, je vous le rappelle. Au surplus, elle devra également payer une amende, hein, puisque c'est une fraude, elle aurait dû le faire. Ensuite, sur le plan fiscal, si elle ne déclare pas ses revenus de droit d'auteur, c'est un peu le même principe. L'administration fiscale dispose de 1 an pour pouvoir examiner votre déclaration fiscale et éventuellement opérer une rectification de celle-ci. En cas de fraude avérée, elle peut remonter 7 ans en arrière. L'administration sociale, donc fiscale, pardon, qui remonte 7 ans en arrière, peut tout à fait estimer que vous avez fraudé depuis longtemps le fisc en ne déclarant pas l'entièreté de vos revenus et donc opérer un redressement rétroactif. Ici, a priori, ça ne concerne que l'année de ses 24 ans, je pense, hein, si je ne m'abuse. Eh bien, à ce moment-là, la rectification portera sur les 8 000 euros, et donc elle devra s'acquitter de l'impôt sur les 8 000 euros qu'elle n'aurait éventuellement pas payé. En plus, évidemment, elle aura une amende pour déclaration qui n'est partielle de ses revenus. Concernant Alfred et Gérard, ça c'est le casus numéro 2, c'est la suite un peu du casus que nous avons examiné lors de la précédente séance de travaux pratiques. Alfred et Gérard sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés à l'ESML, donc aux Beaux-Arts de Liège. Ils envisagent de réaliser une BD, Tu es entier, c'est Nanès. Casterman les engage à condition qu'ils réalisent toutefois une première BD de super-héros. Le directeur de Casterman n'arrête pas de leur donner des consignes précises sur la façon dont ils souhaitent qu'ils travaillent. Il leur impose un horaire de travail. Ils doivent demander la permission du directeur pour partir en vacances. À quel régime de sécurité sociale devrait-il en principe être assujetti? Donc, dans cette hypothèse, Alfred et Gérard sont ici visiblement engagés comme indépendants. Toutefois, et le directeur leur donne, c'est indiqué clairement dans l'énoncé, des consignes précises, un horaire de travail et visiblement ils doivent demander la permission pour partir en vacances, ce qui sont des indices suffisamment concordants pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une activité indépendante, mais bien d'une activité salariée, puisqu'il y a bien un lien de subordination. Hein. Le directeur exerce une autorité hiérarchique sur Alfred et Gérard, et donc à ce titre, on peut tout à fait considérer qu'ils sont assujettis au régime des travailleurs salariés avec tout ce que ça implique en termes de protection de rémunération. C'est donc la question suivante. Pourraient-ils réclamer le paiement d'une rémunération minimum et sur quelle base? Eh bien, effectivement, en tant que salariés, ils peuvent réclamer une rémunération minimum. Il y a une protection donc des travailleurs à ce sujet. Et sur quelle base? Eh bien, comme vous le savez, souvenez-vous-en, il y a un des barèmes qui sont fixés dans les conventions collectives de travail. Qui sont reprises pour chaque commission paritaire. Une commission paritaire, comme vous le savez, rassemble toutes les entreprises d'un même secteur économique, donc ils ont toute une même activité économique, hein, l'horeca, la métallurgie, le non-marchand. Eh bien, les représentants des syndicats et du patronat se réunissent dans le cadre des commissions paritaires pour élaborer ensemble des conventions collectives de travail qui reprennent donc en détail les droits et les obligations des employeurs pour chaque secteur d'activité et déterminent ensemble le montant des heures supplémentaires, comment est-ce que ça se calcule, règlement de travail de nuit, le travail des jours fériés, les différentes primes qui sont allouées aux travailleurs et déterminent aussi ensemble les barèmes minimums, c'est-à-dire les rémunérations minimums qu'ils doivent payer aux travailleurs pour chaque secteur. Question suivante, est-ce que cela change quelque chose si le contrat avec Casterman stipule que Alfred et Gérard sont indépendants? La réponse ici, bon, la question est un peu peut-être mal formulée, mais ça ne change rien. Même si le contrat avec Casterman dit qu'ils sont indépendants, on regarde la réalité de la relation de travail. Et donc ici, même si le directeur dit, je vous ai engagé comme indépendant, dès lors qu'il y a un lien de subordination, la façon dont ils ont qualifié contractuellement leur relation de travail n'a aucune importance. On va vraiment examiner la relation de travail telle qu'elle s'exerce concrètement. Alors, ça change quelque chose effectivement au niveau du paiement des cotisations, puisque là, s'ils se sont déclarés comme indépendants et qu'en réalité ce sont des salariés, eh bien effectivement, dans cette hypothèse, et vous pouvez tout à fait le préciser comme ça si vous comprenez la question dans ce sens, ce ne sont plus Alfred et Gérard qui payent les cotisations, mais bien l'employeur qui doit s'acquitter du paiement des cotisations, puisque en tant que salarié, c'est l'employeur qui se charge du paiement des cotisations sociales, et non pas les travailleurs, contrairement aux indépendants, où là, les indépendants, ce sont eux qui doivent s'acquitter des cotisations sociales, il en va de même pour le précompte professionnel et l'impôt. Casus numéro 3. Sidonie est chorégraphe. Elle travaille ponctuellement sur des projets pour des compagnies de théâtre, des musées, des entreprises en toute autonomie. Ce casus n'a pas été encore examiné au cours, donc on va s'y attarder un peu plus longuement. Quel type de contrat devrait-elle privilégier pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale des travailleurs salariés? Quelle démarche devrait-elle réaliser? Il lui arrive également de faire une régie lumière et de s'occuper de la planification du montage d'un spectacle en tournée. Peut-elle faire valoir cette activité dans le cadre de ses démarches? Alors, comme vous le savez, ici, elle exerce a priori comme indépendante, puisqu'on dit qu'elle est tout à fait autonome par rapport aux commanditaires. Et donc, si elle veut bénéficier du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, elle aura tout intérêt à se tourner vers le contrat qu'on appelle article 1 bis, qui est un contrat qui permet aux travailleurs du secteur, enfin, travailleurs artistes, de travailler pour des commanditaires, dans le cadre de contrats de commande, en toute autonomie, mais également de cotiser au régime des travailleurs salariés. C'est donc une extension, une forme d'extension au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés qui est octroyée uniquement pour les artistes, auteurs et artistes-interprètes. Et il faut remplir toute une série de conditions pour pouvoir bénéficier de cette extension. Je vous renvoie donc au cours que nous avons vu ensemble pour reprendre l'ensemble des conditions. Ici, il ne s'agit pas vraiment de détailler ces conditions, mais on demande quelle démarche elle devrait réaliser pour bénéficier de ce contrat article 1 bis, qui s'agit donc d'une des premières formules, hein, il y en a d'autres, mais une des formules la plus, je veux dire, cohérente sur le plan du droit, c'est de recourir à ce type de contrat. À ce moment-là, elle doit effectivement demander un visa artiste à la commission artiste. Et dans ce cadre-là, elle doit justifier une activité artistique. Comme vous le savez, la commission artiste examine si la personne qui lui soumet un dossier exerce effectivement comme artiste ou si elle exerce également comme technicien, enseignant ou comme artisan, puisque comme vous le savez, il faut que l'activité artistique soit prépondérante. Si l'activité technique est prépondérante, vous aurez un refus, puisque la commission artiste n'octroie le visa artiste qu'aux artistes, pas aux techniciens, pas aux artisans, pas aux enseignants. Donc elle devra mettre en évidence le fait qu'elle travaille principalement comme artiste et que, par exemple, ici, la régie lumière et la planification des tournages n'est qu'une activité résiduelle. Elle devra peut-être même ne pas trop s'attarder sur cette activité résiduelle et mettre plutôt en avant l'activité artistique de scénographe. Tout dépend évidemment de la façon dont vous présentez les choses. Il faut être attentif à toute une série d'éléments et bien qu'elle puisse bien soutenir que elle a une activité artistique en notamment mettant dans son dossier des maquettes de scénographie, des photos de scénographie, des liens vers des sites internet et vers des articles de presse où elle est créditée clairement comme scénographe. Cela permet d'éviter toute difficulté lorsque le dossier sera examiné par la commission artiste. Donc, dans l'hypothèse où elle obtient le visa artiste, elle pourra effectivement déclarer des contrats article 1 bis, des contrats de commande article 1 bis, et à ce moment-là cotiser au régime des travailleurs salariés. Dans l'hypothèse où elle n'obtient pas le visa artiste, si d'aventure elle n'obtient pas le visa artiste, ou même si elle n'est pas intéressée par le mode de fonctionnement de la commission, il lui est toujours loisible de se tourner vers la Smart qui offre aux artistes la possibilité d'être engagés par la Smart et d'être prêtés, entre guillemets, vers des utilisateurs occasionnels. Ce sont les bureaux sociaux des artistes qui fonctionnent de cette façon-là. La Smart a un mode de fonctionnement un peu différent, puisqu'en tant que coopérative, elle permet aux coopérateurs créer une activité dans laquelle ils peuvent s'engager. Et donc c'est la coopérative qui les engage dans le cadre de la création de projets et la coopérative envoie au commanditaire une facture. Donc c'est une relation triangulaire, hein, souvenez-vous du cours. Envoie au commanditaire une facture. La facture est honorée par le commanditaire qui paye à la Smart et la Smart rétrocède ce montant en ponctionnant au passage une commission à l'artiste qui reçoit une fiche de paye. Et donc c'est la Smart qui s'occupe du paiement des cotisations sociales, du précompte professionnel et de tous les frais administratifs afférents à l'engagement et qui délivre une fiche de paye puisque c'est la Smart qui est considérée comme employeur. J'avais attiré votre attention sur le fait que finalement l'employeur, la Smart n'était pas un réel employeur, c'était plutôt un employeur fictif, puisqu'il n'exerçait pas vraiment une autorité sur les travailleurs qu'il engage et qu'il n'y avait pas vraiment de consigne de possibilité de contrôler le travail. C'est d'ailleurs à ce sujet que beaucoup de personnes s'interrogent un peu aujourd'hui sur la nature de ce montage et considèrent qu'on est en dehors de l'exception qui avait été donnée pour les bureaux sociaux des artistes de prêter occasionnellement à des utilisateurs des travailleurs artistiques pour des employeurs qui ne disposaient pas de travailleurs salariés ou qui n'étaient pas engagés sous leur payroll. Ici, on est clairement, je dirais, dans une situation qui s'éloigne de cette exception qui avait été accordée par le législateur pour les artistes. Et la Smart, je dirais, est utilisée aujourd'hui par beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des artistes et qui l'utilisent pour pouvoir accéder au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés tout en travaillant tout à fait de manière indépendante. Donc ici, il s'agit vraiment de la plupart du temps de faux salariats puisque ils sont engagés, les travailleurs, par la Smart et la Smart finalement n'a pas ce rôle d'employeur classique. C'est un système qui est de plus en plus critiqué, ce qu'on appelle le portage salarial, mais pour l'instant il est toléré, il est toujours accepté. Et ce qui est intéressant pour ici la travailleuse, la scénographe, c'est qu'elle pourra utiliser la Smart pour cotiser au régime social des travailleurs salariés. Et donc, il n'est pas inintéressant de recourir à ce système si d'aventure elle n'avait pas obtenu le visa artiste à la commission, par la commission. Deuxième question, la plupart de ces intermédiaires lui proposent des contrats Smart, est-ce avantageux pour elle? Donc, dans la prolongation du raisonnement que je vous ai proposé, ici, évidemment, la Smart offre un service qui est intéressant pour beaucoup de travailleurs artistes, puisque Ça allège un peu la charge administrative. Vous ne devez pas courir après l'argent. La Smart dispose de son propre service de récupération si un utilisateur, un commanditaire indélicat venait à ne pas payer, à ne pas honorer son engagement, ben, c'est la Smart qui le poursuit. Vous êtes payé par la Smart, quoi qu'il en soit. Donc, la Smart en tant qu'employeur est obligée de vous rémunérer et c'est elle qui s'occupe de récupérer l'argent qui lui est dû auprès du commanditaire. Ça, c'est un avantage non négligeable en pratique. Et ensuite, ben, sur la charge administrative, c'est surtout intéressant parce que là, en tant qu'artiste, vous n'avez pas grand-chose à faire. La Smart s'occupe de tout, de déclarer les contrats, de toute la paperasse en fait, hein, administrative, dont beaucoup d'artistes passeraient bien. Donc ça, c'est un deuxième avantage non négligeable. Et enfin, un troisième avantage, c'est de pouvoir centraliser au sein d'un même pôle l'ensemble des activités, puisque un artiste, comme vous le savez, travaille par projet. Il est engagé tantôt sur un projet, tantôt sur un autre, et c'est difficile parfois de jongler avec différents secrétaires sociaux, différents employeurs, tout est un peu dispersé. Là, ce qui est intéressant avec la Smart, c'est que tout est centralisé auprès d'une même personne morale. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant, surtout que les outils informatiques qui ont été développés sont assez intuitifs et permettent d'avoir une vue d'ensemble assez pratique. En revanche, et c'est le principal des avantages de la chose, c'est que ça a un coût relativement important. Et là, voilà, c'est lié au mode de fonctionnement de la Smart, effectivement. Il faut l'avoir en tête. C'est intéressant dans toute une série d'hypothèses, mais lorsque l'activité commence à vraiment prendre de l'ampleur, il est intéressant pour l'artiste de réfléchir à d'autres modes de fonctionnement, puisque là, on voit vraiment la différence en termes de montant. Et c'est vrai que lorsqu'une grosse partie de nos revenus passe pour des services administratifs de la Smart, beaucoup s'interrogent sur la pertinence de ces montants et décident de, par exemple, se créer une ASBL ou de fonctionner autrement, voire en passant indépendant si vraiment l'activité est constante et importante, notamment pour les artistes plasticiens. Peut-elle être engagée comme intérimaire auprès d'un centre culturel dans le cadre d'une exposition? Alors, ici, la notion d'intérimaire renvoie aux bureaux sociaux des artistes. Si, les bureaux sociaux des artistes peuvent mettre à disposition les artistes comme travailleurs occasionnels, mais pas pour les centres culturels, qui sont des organismes qui, par définition, disposent de travailleurs salariés et qui, par définition, sont des ASBL qui ont une activité structurellement liée à des engagements d'artistes. Et donc, ce n'est pas uniquement occasionnel, les centres culturels embauchent de façon récurrente des travailleurs artistiques, et donc, il est a priori pas possible, en tout cas la loi ne prévoit pas la possibilité pour des centres culturels de recourir à des engagements par des bureaux sociaux des artistes en se faisant prêter par ceux-ci des travailleurs artistes. Donc, en principe, la réponse à cette question est non, puisque le centre culturel ne respecte pas les conditions légales pour passer par un bureau social des artistes. Sidonia reçoit le prix de la meilleure scénographie de la part de la Fédération Annie Bruxelles et une enveloppe de 7 500 euros versée sur son compte personnel. Comment a-t-elle taxé l'impôt des personnes physiques? Pour cette question, comme nous n'avons pas eu le temps de voir d'examiner ensemble les différentes formes de taxation liées aux aides reçues et aux subsides reçus par les personnes publiques et les personnes privées, a priori, vous n'aurez pas ce type de question à l'examen. Donc, vous ne devez pas pouvoir spécialement répondre à la question. Il s'agissait ici d'une question vraiment pour mémoire. Je vous renvoie à la partie du cours que j'ai brièvement exposée la dernière fois. Et donc, ici, voilà, ici, bon, on pourrait répondre à la question, hein, mais donc, comme vous le savez, il est possible d'avoir une partie ou la totalité des montants reçus de bénéficier d'une exonération. Ici, il semble bien que le prix de la meilleure scénographie rentre dans les conditions de l'exonération pour les subsides perçus par les autorités publiques et les ASBL poursuivant un but non lucratif, un prix donc qui n'est pas donné en échange d'un service et en contrepartie d'un service rendu. Ce n'est pas une personne privée, donc a priori on est bien dans les conditions d'exonération totale ou partielle. Là je renvoie aux différentes conditions qui sont apprises dans les slides que vous trouverez sur l'intranet. Voilà, je termine donc ici cette petite séance de travaux pratiques. Donc on va pas continuer cette séance, mais on va avoir une autre séance de travaux pratiques dans deux cours. Puisque ici, pour la suite des hostilités, nous allons examiner la troisième partie du cours qui sera légèrement raccourcie, qui concerne les prestations sociales des artistes. Et donc, nous allons rapidement réavoir une séance de travaux pratiques à la demande de plusieurs d'entre vous. Et donc, la partie théorique concernant les prestations sociales sera volontairement réduite. C'est pas pour autant que on va pas voir les principes essentiels à retenir pour bien comprendre le système concernant les artistes, mais on va plus s'attarder sur des travaux pratiques. Et donc, il y aura une séance comme celle-ci dans le cadre du dernier cours. Je vous invite vivement à y participer, puisque cela vous aidera vraiment, je pense, pour l'évaluation en janvier. Dans la suite de ce cours, donc, nous examinerons dans l'heure qui suit les prestations sociales et plus particulièrement le chômage artiste. Je vous remercie de votre attention. À tout de suite.